Entre-temps, entre nous, un partage de réflexions avec le doyen Philippe Capel-Dumont. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 en compagnie du doyen Philippe Capel-Dumont, doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, professeur des universités, professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg. Nous allons parler en ce dimanche de la vie monastique. La vie monastique aujourd'hui, ça paraît une incongruité totale, Philippe. Ce sont des gens qui se retirent du monde à une époque où le monde est tellement prégnant, tellement permanent, où il y a tellement de bruit, de fureur. Alors voilà des gens qui se mettent sur une espèce d'îlot. Est-ce qu'on les comprend encore aujourd'hui ?
Alors, je rappelle qu'il y a beaucoup de monastères dans le monde et en Europe et en Occident, beaucoup de monastères, donc beaucoup de moines, et confondent encore des monastères à l'heure où nous parlons.
Hein ? Dans quel pays ?
En France, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Afrique noire aussi. On fonde des monastères qui sont souvent des petites communautés de 10-15 et qui, sur place, se mettent à croître de façon plus ou moins miraculeuse et plus ou moins naturelle. Les deux sortent ensemble. Le monachisme est une vieille affaire dans le christianisme. Le christianisme est devenu monachisme, en gros, au premier millénaire. Il s'est développé très progressivement, les pères cappadociens, dans les 3-4 premiers siècles.
Cappadoce, c'est-à-dire la Turquie.
La Turquie actuelle, et puis ensuite en Angleterre, et de là, essaimé dans toute l'Europe. La France a recueilli le monachisme très très rapidement, et a essaimé un peu partout dans le monde. Je rappelle aussi qu'il y a un monachisme non chrétien, il y a un monachisme aussi dans le bouddhisme, il y a aussi des différentes religions, et avec l'islam aussi, directement dans certaines familles d'écoles, il y a un certain monachisme, même si le Coran comme tel ne produit pas explicitement le mouvement monastique.
Donc c'est une démarche assez répandue finalement, contrairement à ce qu'on pense
oui,
quand on est dans la vie séculaire.
Bien évidemment. Alors la question que vous posez est très juste. Tout le monde se dit mais pourquoi rentrer dans une affaire pareille qui consiste à fuir le monde ? Autrement dit, le monachisme est compris comme étant une institution de la fuite du monde et que nous resterions dans le monde. Et lorsque tel ou tel, comme vous dites, prend le voile ou tel homme ou tel... Eh bien, on considère qu'il
passe derrière une clôture, il paraît assez terrifiant.
Il est perdu pour le monde, et souvent, d'ailleurs, certains parents vivent ça très très mal, il faut l'admettre. C'est une démarche de rupture considérable. Mais là où je suivrai pas le diagnostic, c'est que l'on parle de fuite du monde. Ce n'est pas parce que vous changez de lieu et que vous vous isolez que vous fuyez le monde. S'isoler, de fait, on s'isole, mais on vit en communauté. Je rappelle d'ailleurs que les moines, monos veut dire seul, mais ils vivent en communauté. C'est très rare que l'on accepte qu'un moine devienne ermite. Alors je rappelle que les ermites doivent toujours être liés à une communauté. Même s'ils vivent seuls, ils ont des contacts hebdomadaires ou mensuels avec une communauté.
Donc ils ont leur réseau en quelque sorte.
Ils doivent toujours être rattachés en quelque sorte à une communauté. En tout cas dans le christianisme, c'est ainsi. Et on ne se décrète pas ermite, moine seul. Alors la seconde remarque que je fais, c'est que ceux qui entrent ainsi dans la vie monastique n'entrent pas comme on fait un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, pendant plusieurs années, devront être confrontés à la réalité. Ils vont être soumis à un discernement qu'eux-mêmes vont produire aussi pour savoir si, de fait, ils sont aptes. Et certains en ressortent, d'ailleurs, parce qu'on voit que, précisément, ils ne sont pas faits pour cela. Et donc, généralement, ce temps de probation dure 2, 3, 4, 5 ans. Et au terme de 7, 8, 10 ans, ils font ce qu'on appelle les vœux perpétuels. Et donc, à ce moment-là, sont moines à part entière, si vous voulez. Alors, il suffit d'aller dans un monastère pour se rendre compte, le plus souvent, que ces hommes ou ces femmes sont très joyeux. Ne sont pas tristes, ils sont très joyeux. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'ils sont très informés sur le monde. Si vous mangez avec les moines pendant une semaine, 3-4 jours, vous verrez qu'ils lisent le journal, que pendant les repas, on lit les nouvelles.
Ils écoutent la radio.
Ils écoutent la radio, de temps en temps la télévision, pas trop quand même, pas autant que nous, sans doute, mais que le moine est un homme de communion avec le monde. Alors, comment est-ce possible ? Comment peut-on s'isoler et être en communion ? Eh bien, c'est très simple. Je prendrai, si vous voulez, une image. Quelquefois, c'est en se repliant sur soi-même qu'on atteint la profondeur des choses. C'est en fermant les yeux qu'on apprend à mieux voir, et c'est en faisant silence qu'on apprend à parler. Les moines, si vous voulez, l'expression de tout cela dans notre monde, c'est celui qui ferme les yeux pour qu'on voit, c'est celui qui se tait pour que l'on parle. Et de même, nous avons besoin nous-mêmes de nous taire pour parler convenablement. Souvent, nous débitons des mots, nous ne savons pas ce que nous disons, nous papotons, mais nous ne parlons pas, nous ne disons rien en réalité. Et donc, nous avons besoin de silence pour former une parole qui convienne. Eh bien, le moine est celui qui, justement, est dans notre société l'homme du silence pour que la parole prenne corps. Et il y a quelque chose d'assez grave, au fond, dans une vocation monastique. On renonce à la paternité, à la maternité, on renonce au bien-être social, on renonce à la possession des biens, on renonce à beaucoup de choses. Et en même temps, c'est une forme de silence, mais qui met en valeur aussi le vrai prix de la vie. Où est le vrai prix de la vie? Qu'est-ce qui vaut véritablement dans une vie? Eh bien, je dirais que le moine est celui, au fond, qui, dans notre société, est une sorte de l'humus, la racine, qui ne se voit pas, mais qui fait vivre l'arbre, n'est-ce pas? Je ne suis pas spécialiste de la question des forêts, mais enfin, il me semble avoir compris que les racines d'un arbre sont aussi longues que la hauteur de l'arbre, n'est-ce pas? On ne voit absolument pas les racines qui font vivre l'arbre. Et je dirais que la vie monastique, c'est aussi cela, c'est-à-dire qu'on ne voit pas nécessairement ces moines tous les jours, il faut faire la démarche. Ils sont comme, au fond, ceux qui permettent aussi que la vie s'installe dans toute sa gravité, dans toute sa profondeur. Pourquoi les fous vont-elles dans les monastères? Quand même, interrogeons-nous. Pourquoi? Qui cherchent-elles le dimanche? Pourquoi des retraitants discrets? Pourquoi des hommes et des femmes tout à coup décident à 40-50 ans de passer 8 jours dans un monastère? C'est plus fort qu'eux, parce qu'ils veulent rencontrer l'essentiel. Ils veulent rencontrer le cœur de la vie, le divin. Et donc, le moine, le monastère, signifie pour nous ce moment de respiration ou d'inspiration dont l'homme a besoin. S'il n'y avait plus de monastère dans le monde, nous n'aurions plus autant de lieux de respiration humaine. Et Dieu merci, ils sont présents. Tout le monde n'est pas fait pour être moine, certainement pas. De même que tout le monde n'est pas fait pour être charpentier, ou animateur, ou propriétaire d'une station de radio, ou tout ce que vous voudrez. Mais beaucoup, en revanche, ont une vocation, la plupart ont une vocation. Et c'est dans cette complémentarité que la vie émerge. Et donc, nous devons être tous, je crois, enfin, c'est les moines comme les séculiers, nous sommes tous des amoureux de la vie, mais selon des modalités différentes.
Alors, on a un petit peu de mal, encore une fois, dans ce monde qui est tellement actif, qui est tellement visible, qui est tellement débordant. On a un petit peu de mal à penser qu'on peut avoir une action dans le silence, dans l'éloignement. Par quel phénomène ces hommes et ces femmes qui ont choisi le recueillement et la distance peuvent-ils avoir une action sur notre monde?
De deux manières. La première, lorsqu'ils rencontrent des hommes et des femmes qui viennent les voir pour des raisons de profondeur. Et souvent, ils en repartent transformés, convertis. Ils deviennent d'autres personnes, d'autres lumières sur le chemin de la vie séculière. Et ils le doivent à ces rencontres de profondeur. La seconde possible influence du moine, pour le coup, ça se situe au niveau de la foi, c'est-à-dire la communion avec le ciel, la communion des saints, la communion avec les vivants et les morts, la communion avec tout ce qui est vivant. La prière est certainement, pour eux en tout cas, un instrument, non pas d'influence lobbyiste, mais une sorte de communion des profondeurs où l'homme est capable de se transformer, de se métamorphoser. Et là, si le moine ne croit pas que par la communion des saints, par la prière, le monde ne peut pas être changé. De fait, il faudrait qu'il change de métier, si vous permettez cette trivialité. Mais le moine est essentiellement celui qui pense que précisément dans la profondeur de l'âme humaine, dans la relation vivante avec Dieu, le monde se transforme le plus radicalement qui soit.
Alors Philippe, cette notion de communion des saints que vous avez citée, je pense que c'est une des notions les plus belles dans notre religion catholique. Ça mériterait qu'on la rappelle, parce qu'au fond, c'est une lointaine réminiscence de catéchisme pour beaucoup d'auditeurs, j'en suis certaine.
Oui, c'est la communion des vivants. La mort n'arrête pas la vie est plus forte que la mort, et nous ne cessons pas d'entrer dans la vie si nous le voulons bien, et la communion des saints signifie que nous sommes en communion avec le vivant, le premier des vivants, qui ne cesse de susciter la vie. Le grand problème, c'est, sans donner dans trop de pieuseté, même un dimanche matin, nous ne cessons de nous fermer à la vie. Certains de nos choix nous ferment à la vie, hein, et d'autres nous ouvrent à la vie, précisément. Et donc, la communion des saints, c'est une manière de nous dire, nous n'aurons de vie que dans cette communion avec les vivants, qui sont déjà vivants. Et donc, nous avons toujours cette possibilité en nous de nous fermer, de nous ouvrir à la vie. Nous avons cette liberté de le faire, c'est notre dignité que de pouvoir le faire. Et en même temps, en répondant à la vie, nous nous ouvrons à plus de dignité encore.
Alors, dans la communion des saints, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion, je dirais, de liaison, de lien avec ceux qui sont morts et qui sont dans la même communauté d'esprit ou de croyance que nous?
C'est tout à fait ça, on peut dire ça.
Donc, au fond, ça n'est pas seulement avec les vivants, mais c'est avec tous les croyants, vivants ou morts?
Oui, tous les vivants, j'entends tous les vivants par-delà la mort, c'est avec un grand V, c'est-à-dire par-delà la mort terrestre ou la vie terrestre. La vie est plus grande que la vie terrestre, la vie est plus grande que la mort terrestre. D'ailleurs, sans aller chercher trop loin dans l'abstraction, on peut très bien comprendre ceci, c'est que la vie n'engendre que la vie. La vie n'engendre pas la mort. La vraie vie ne peut pas engendrer la mort. Elle engendre la vie. Et c'est pour moi d'ailleurs un des motifs d'une foi indéfectible dans la vie éternelle et donc dans la communion des saints.
La communion des saints, encore une fois, c'est peut-être une des plus belles notions, je pense, dans notre religion. C'est quelque chose de tellement important, c'est quelque chose de tellement central, parce que ça nous met en rapport, ça nous permet de communiquer avec ceux qui sont là, ceux qui ne sont plus là, ceux qui seront à venir, peut-être aussi.
Et de communiquer avec ce qui fait la racine de notre vie, le principe vivifiant, de communier avec notre principe vivifiant. Et ceci est une chance inouïe.
Alors en ce dimanche, mon cher Philippe, c'est dans la communion des saints que nous nous retrouvons avec nos auditeurs. À dimanche prochain.